C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire des finances personnelles avec le syndic Pierre-Paul Belzile-Lacasse. Monsieur Belzile-Lacasse, bonjour.
Bonjour, Monsieur Champeau.
La semaine dernière, on a parlé, évidemment, de gens qui peuvent être victimes de fraude et à quoi servent les données qu'on vient chercher chez nous maintenant. Si vous êtes victime de fraude maintenant, est-ce qu'on peut regarder à quoi ça peut ressembler, les exemples à tout ça?
Oui, ben c'est certain que bon, il y a plusieurs types d'exemples de fraude que je peux vous donner. Moi, dans mon bureau, j'en croise souvent plusieurs fois par année, malheureusement. La fraude que je vois peut-être le plus souvent, ça serait la fraude amoureuse, en fait. Donc ça, c'est un type de fraude. Essentiellement, les gens parlent pendant des fois des années avec quelqu'un. Normalement, quelqu'un c'est dans un autre pays. Vont parler, vont chatter, éventuellement vont même faire des vidéoconférences. Et éventuellement, après 2, 3, 4 ans, ils se sont jamais fait demander de l'argent, mais à un moment donné, ça commence. Et là, on se fait demander de l'argent. Des fois, on se fait dire, j'ai de l'argent dans mon compte, mais là, j'ai un problème. Là, est-ce que je peux te le transférer? Puis après, tu me le renvoies. Et les gens se font transférer de l'argent d'un compte qui est vide par différents intermédiaires. Et quand eux prennent cet argent-là et la transfèrent à une autre personne, la personne d'un autre pays qui est devenue leur ami ou leur amoureuse, eh bien, cette personne-là dit « Ah ben, il doit avoir une erreur, je l'ai poursu. » Et ce stratagème-là, moi, j'ai déjà vu là des gens qui se sont fait prendre 10, 20, 80 000 $ de cette façon-là. Envoyer de l'argent en étant convaincu là que la personne est réelle et qu'elle veut vraiment leur bien, puis ça fait des années qu'ils communiquent. Là. Donc, ça, c'est une fraude qui est très pernicieuse puis qui est que je vois de plus en plus. Puis les gens, souvent, ont de la difficulté à s'avouer aussi qu'ils se font frauder, hein, parce qu'il y a une relation qui s'est développée avec cette personne-là. Fait que ça, c'est, je dirais, la fraude que je vois malheureusement le plus souvent, mais qui est rendue très commune. Les fameuses fraudes, là, avoir gagné un concours, des faux héritages, des courriels qu'on reçoit, ça, on en entend quand même assez souvent, ça continue de circuler. Des appels aussi, hein, qui viennent nous demander est-ce que vous voulez participer à tel élément, on a besoin de prendre certains renseignements. Puis là, des fois, ben il y a un frais d'ouverture qui est pas très élevé. Faut penser que la majorité des fraudes, là, les fraudeurs veulent pas frauder des énormes montants, surtout pas d'un coup. Parce que plus la fraude est élevée et qu'elle se fait reporter, ben plus les enquêteurs vont axer sur ces fraudes-là. Donc, quand on fraude 1 000 $, 2 000 $, avant que les enquêteurs aient le temps de se rendre à ce genre de fraude-là, ben souvent, il y a des fraudes plus importantes, là. Donc, c'est une des stratégies des fraudeurs d'avoir tellement un grand nombre de fraudes, de petites fraudes, que c'est pas que ça vient compliqué là, d'investiguer ces fraudes-là.
On peut parler que ces fraudeurs-là, c'est des beaux parleurs. Ils établissent un climat de confiance avant.
Absolument, le climat de confiance, il est là pendant. C'est des gens patients, c'est des gens qui font de l'ingénierie sociale, là, c'est des fins psychologues là, qui travaillent là-dedans. Et c'est vraiment un travail pour eux parce que il y a des vidéoconférences qui sont faites, là, ils prennent de leur temps pendant des fois des années. Donc, et pour éventuellement aller soutirer de l'argent à ces gens-là. Donc, c'est pas nécessairement des gens naïfs. Il y a des gens là-dedans qui ont fait des vérifications, vous croiriez même pas à ça. La quantité de vérifications qu'ils font avant d'envoyer de l'argent, et malgré tout. Se font avoir parce que c'est très, très bien monté. Donc, de communiquer avec quelqu'un dans un autre pays, aucun problème, mais quand on commence à en envoyer de l'argent, ça cache quelque chose.
Bon, alors, faut se prévenir. Maintenant, comment on peut se protéger ce genre de fraude-là? Est-ce qu'on dénonce vite? Parce que moi, je reçois beaucoup de courriels des héritages, ou encore, vous avez un compte FedEx ou un compte d'une autre compagnie, voici votre numéro, vous voyez rentrer vos données. À chaque fois, moi, qu'on me demande mon numéro, mon nom de courriel ou ma date de naissance, quelque chose de même, je débarque. Des fois, je vais là pour en rire, là, mais aussitôt ça pop, votre date de naissance, votre courriel.
Exactement, parce qu'on l'a dit hein, la semaine passée, les fraudeurs sont pas juste après l'argent, ils sont aussi après les renseignements. Donc, de commencer à donner des renseignements sur nous, ben on s'expose de plus en plus. Et ben qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Ben la première chose à faire, c'est évidemment de communiquer avec Equifax TransUnion, hein, il y a des formulaires sur leur site pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à notre dossier de crédit et potentiellement mettre aussi des alarmes, hein, si on s'est fait frauder. On peut avertir à ce moment-là n'importe qui recevrait des demandes en notre nom que, attention, il y a des fraudeurs qui agissent sur mon compte. Évidemment, communiquer avec les prêteurs quand c'est des fraudes qui touchent à de l'argent ou des banques ou des prêts qui ont été faits en notre nom. Communiquer avec les corps policiers, évidemment, pour se faire aligner sur à qui je dois parler pour dénoncer une fraude. Les centres antifraude aussi du Canada qui travaillent là-dessus. Puis on peut aller aussi vérifier hein, sur le centre antifraude du Canada le type de fraude qui existe, ça peut donner, il y en a énormément, là, mais évidemment, ça peut donner des fois des arguments. Des fois, on veut convaincre un proche de notre famille aussi qui est en train de se faire avoir, là, ben, des fois, d'aller chercher ces renseignements-là et de le montrer. Regarde, là, sur le centre antifraude, c'est écrit cette fraude-là, ce que tu es en train de me décrire. Et moi, j'ai dû le faire, là, pas plus tard que là, 2 semaines, une intervenante a amené un monsieur dans mon bureau. Et en fait, c'était pour confirmer ce qui se passait. C'était un stratagème très connu. Et je donne des présentations sur la fraude. J'ai montré ma présentation à cette personne-là pour que cette personne-là réalise qu'elle s'était fait avoir et que c'était pas de l'amour, que c'était pas une amie, que c'était un fraudeur qui a demandé de l'argent. Donc, faut faire ces démarches-là parce que si on dénonce pas, ben évidemment, ces fraudeurs-là vont continuer de le faire et de le faire à l'infini. Et quand il y a assez de plaintes sur un type de fraude ou sur un type de personne, ben évidemment, ça aide des enquêteurs pour essayer d'enrayer ces fraudes-là.
Et comme on l'a dit, il y a le lien de confiance. Et souvent, il y en a qui se sont mis de l'argent de côté pour leur retraite ou quoi que ce soit et qui se font laver. Là.
Absolument, absolument. C'est malheureux. Et ces gens-là, ben, des fois, non seulement ils dépensent de l'argent, mais souvent, ils vont aller s'endetter sur une carte de crédit ou autre pour donner de l'argent à ces gens-là. Et des fois, ils peuvent même être accusés de complicité à la fraude. Donc, quand il y a des transferts d'un compte à l'autre, là, la banque en question qui perd de l'argent dans tout ça, ainsi que la personne, ben la banque, elle peut dire, ben, attends une minute, là, moi, si je perds de l'argent là-dedans, là, c'est parce que tu as été, exemple, tu as donné tes comptes ou tu as transféré de l'argent, tu as servi là, de prête-nom. Et donc, on peut être poursuivi en fraude aussi nous-mêmes. Donc, faut faire très attention avec ces éléments.
Ben, Pierre-Paul Belzile-Lacasse, un gros merci et on se reparle la semaine prochaine.
Merci, Guy.